Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Et nous allons, si vous voulez bien, ouvrir notre Bible. On l'a chanté il y a un instant, et bien c'est vrai que la Bible, la parole de Dieu, elle fait grandir notre foi. Et puis, elle délivre, elle nous apporte tout ce dont nous avons besoin au fond de nos cœurs. Elle est la réponse, c'est vrai, à toutes les préoccupations multiples des hommes. Et à ce titre, j'aimerais justement vous convier dans une réflexion qui traite d'un sujet qui nous concerne tous, c'est le pardon. Voilà. Le pardon, nous sommes tous confrontés d'une manière ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre, avec cette nécessité du pardon, de pardonner parce que nous avons été pardonnés par Dieu. Alors il y a, c'est vrai, souvent de grands conflits, de grands duels dans nos consciences, dans nos cœurs, mais Jésus nous enseigne quelque chose qui est propre finalement à nous amener à comprendre ce que c'est que le vrai pardon. Et pour ce faire, je vous propose que nous fassions donc notre lecture dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18, évangile de Matthieu, chapitre 18, et nous allons tout simplement lire le verset 21 et puis la fin de ce chapitre. Alors Jésus a le mérite de nous dire les choses comme nous devons les entendre, et je pense que c'est aussi une source pour chacun d'entre nous de liberté et d'affranchissement, voire même de guérison intérieure. Ça commence de cette manière. Alors Pierre s'approcha de lui, de Jésus, et dit : Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ? Jésus lui dit : Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume de Dieu est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit : Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant : Paie ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant : Aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit : Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ? Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Voilà, que Dieu nous aide à comprendre cette parole. Alors c'est vrai qu'elle est simple à saisir dans le texte, mais dans la mise en pratique c'est peut-être différent, parce qu'il y a un facteur qui souvent aggrave la question et dont il nous faut véritablement surmonter, ce sont nos souffrances personnelles pour le mal que nous avons reçu. Et c'est vrai que ce n'est pas simple, et là, je crois, Jésus a raison, nous avons vraiment besoin de tout le secours et de l'aide de Dieu. Le verset 21 nous dit ceci : Alors c'est Pierre, toujours lui qui pose les questions, souvent pour lui et pour les autres, alors il s'est approché de Jésus et lui a dit : Mais Seigneur, voilà une question tout à fait particulière. Il va dire : Mais combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? La question en effet, est lié, est en lien avec le pardon des offenses. Parce que lorsque nous regardons dans le même chapitre, il est question finalement d'un enseignement que Jésus nous donne, où il est question de ceci, je le lis tout simplement mais brièvement, « Si ton père a péché, reprends-le entre toi et lui seul. » Et puis après, il y a tout un développement. Donc, ce que Jésus dit, c'est véritablement une amplification des questions qui étaient posées auparavant, et que Pierre, tout simplement, rapporte, et Jésus va, en quelque sorte, utiliser la question de Pierre pour aller plus loin de l'enseignement qui est proposé au verset 15 de notre chapitre. Ça, c'est en lien avec ce verset 15. Et puis, vous remarquerez que la question aussi est en lien avec l'exaucement des prières, toujours dans le même chapitre. Écoutez bien, au verset 19, hein, Jésus dit « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » On comprend que de toute façon, il y a toujours cette notion de pardon parce que c'est lui qui ouvre les portes. Et nous pouvons nous accorder, et peut-être derrière cette pensée de nous accorder, c'est peut-être là, en perspective, eh bien si nous demandons quelque chose, mais que nous avons finalement un ressenti ou un ressentiment ou une amertume contre quelqu'un, c'est pas la peine de prier. Donc il y a s'accorder, se mettre d'accord ensemble, et nous le voyons, il s'agit du pardon des offenses et de l'exaucement des prières. Alors, la question qui est avant tout une question dilemme, et je souligne le mot, parce que c'est un véritable problème pour les hommes, cette question qui tourmente l'âme et l'esprit des hommes, quels qu'ils soient. Que ce soit ceux qui sont sans espérance autour de nous, et peut-être, et là nous avons vraiment besoin de nous mettre à l'écoute de Jésus, peut-être pour aussi les chrétiens, d'avoir au fond du cœur quelque chose qui nous reste, hein, et qui fait que, eh bien, nous avons du mal à pardonner. Alors, la question revient, et c'est celle de Pierre, mais combien de fois? Il y a là à décoder peut-être, en effet, une perplexité chez Pierre en disant, mais voilà, jusqu'à quand je vais pouvoir pardonner? Parce que celui qui m'offense, ben alors, peut-être qu'il y a une entente provisoire, mais ce n'est que provisoire, ce n'est jamais solide parce qu'il recommence. Alors combien de fois vais-je pardonner? Vous remarquerez que dans la question de Pierre, il y a d'abord une notion de quantité. Et Jésus va répondre. Hein, si vous avez fait la multiplication, hein, il nous est bien dit à un moment donné, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Alors si vous avez une calculette, allez-y, vous me direz ça à la fin. Hein. Donc une notion de quantité. Il y a ensuite un autre obstacle à surmonter. La question le laisse deviner. C'est la patience à supporter l'insupportable. Lorsqu'il y a une provocation, lorsque les choses sont réitérées. Et il y a la volonté du pardon. La volonté de pardonner, qu'est-ce que je fais? Parce que parfois nous pouvons être poussés très très loin dans... Et il y a aussi, eh bien, une notion d'usure. Parce qu'on se dit, mais on ne s'en sortira jamais, puisque ça recommence. Et c'est vrai que nous pouvons connaître, eh bien, ce genre de problème dans la vie. Et avec, naturellement... Et c'est peut-être aussi ce qui pouvait être ressenti ou pressenti dans la question de Pierre, mais est-ce que c'est possible de pardonner? Vous savez, il y a dans notre histoire, même contemporaine, des gens qui ne peuvent pas pardonner. Et ils le disent, hein, je ne pardonnerai jamais. Et il y a des gens aussi qui ont passé par des drames épouvantables. Moi, j'ai, pas comme vous, mais quelquefois on a entendu des témoignages des rescapés de la Shoah, qui ont vécu 1000 morts, qui ont vécu l'enfer. Et vis-à-vis de leurs bourreaux, de ces gens qui les ont amenés là, ayant perdu peut-être parfois toute leur famille, et de dire, eh bien, il faut arriver à passer et à pardonner. Parce que quand on retient cette haine, ce poison dans notre cœur, on ne vit pas. On ne peut pas vivre. Et Jésus est là pour nous dire, mais... Moi, ce que je vous dis, pardonnez, parce que vous n'allez pas pouvoir subsister. Parce que ce ressentiment, ce qui vous tourne continuellement dans votre tête, ce qui vous bouleverse, ce qui vous trouble, ce qui met votre cœur et votre âme à mal, c'est parce que justement, eh bien, vous êtes prisonnier d'un feu qui est à l'intérieur de vous-même. Et ça s'appelle tout simplement la haine. Est-ce encore possible de pardonner? Alors j'aimerais brièvement que nous parlions un peu des causes et des raisons qui font la souffrance des offensés, la souffrance de ceux qui ont été, provoqués grandement, parce que bon, quand il s'agit des affaires bénignes, je crois qu'il faut être intelligent, tout simplement. Mais il y a des choses qui sont beaucoup plus graves. Et les plus grandes blessures, parfois, ce ne sont pas les étrangers. Ce sont les gens qui vivent avec nous. Ce sont peut-être les membres de notre famille. Ce sont peut-être ceux qui sont les plus proches, pour où nous n'avions jamais peut-être pensé que nous pourrions connaître ce mal, cette souffrance. Quand on a été maltraité à tous les âges, quand on a été humilié, quand on a été trompé et dépouillé, quand quelqu'un secrètement, c'est un aspect des choses, ou encore son contraire publiquement, vous a descendu à quelque niveau que ce soit, parfois dans les relations professionnelles ou dans toutes sortes de situations, entrant en concurrence, entrant dans une rivalité, lorsque l'on a attenté à votre réputation et que l'on vous a sali avec des rumeurs, avec des choses qui sont non seulement de la médisance, parce que je rappelle que le sens du mot médisance, c'est dire des choses vraies qui sont vraies mais dans l'intention de faire du mal, mais en arriver à la diffamation et la calomnie, on peut y passer à cela. Quand on a sali votre honneur et qu'on vous a laissé tout simplement sur le bord de la route, quand on a souillé votre corps, on peut faire allusion à ce qui se passe malheureusement, quand la méchanceté s'est acharnée sur vous et que des gens n'ont pas fait les choses sans prendre conscience du mal qu'ils faisaient, mais au contraire, en faisant le mal, en trouvant plaisir à l'injustice, dans le but, précisément, de faire souffrir. Quand également la justice n'a pas passé, ce qu'on attend, humainement parlant, que la justice passe, qu'il y ait quelque chose qui, finalement, soit reconnu par l'autorité, par des autorités. Quand également, on a été brisé par l'injustice éhontée, en face de vous, vous êtes trouvé avec des gens qui ont prononcé le mensonge et qui n'y ont été allègrement pour vous enfoncer, comme on le dit. Quand on a été abandonné, quand on a été trahi, quand on est oublié dans notre solitude, parce que c'est ça aussi les conséquences. C'est pas seulement d'avoir reçu l'affront, mais de se retrouver tout seul, et puis tout le monde vous tourne le dos, sans moyen de secours ou même de pouvoir exister parce que vous portez une étiquette. Quand la haine autour de vous vous a tué, vous savez, c'est terrible. Et c'est contaminant, la haine. Et vous savez, c'est pas pour rien qu'il est parlé du glaive dans la Bible, mais il est parlé aussi de l'épée de la langue. Et vous savez, on peut tuer beaucoup plus sûrement les gens avec la langue qu'on peut le faire avec un fusil ou un couteau ou tout ce que voudrait une épée. Quand ce processus de destruction vous fait déprimer et en disant « mais je m'en sortirai jamais », quand on a volé moralement, matériellement, votre enfance ou votre jeunesse ou votre vie, quand la confiance est abîmée parce que vous avez mis votre confiance à quelqu'un qui vous a trompé, qui vous a complètement, s'est retourné contre vous, quand le coupable que vous voyez de temps à autre, ou que vous entendez parler de temps à autre, parade, fier de lui, comme un triomphateur, comme un vainqueur, lorsqu'il vous écrase, lorsqu'il vous nargue, quand le mal est applaudi et que le droit est incompris, la vérité, quand elle est renversée, alors vous sentez que votre vie à ce moment-là est ruinée et elle est gâchée, alors nous pouvons dire comme Pierre pose la question, « Mais Seigneur, combien de fois vais-je pardonner, si j'en suis encore capable ?» C'est terrible, hein ? Et c'est notre monde. C'est notre monde. Il suffit de regarder ou d'écouter ce qui défraie la chronique tous les jours, par quelques médias que ce soit, vous allez comprendre que notre monde, il est fait sur un tapis. Il n'y a pas que ça, mais souvent. Dans les différentes sphères de notre société, en politique, dans le monde religieux, dans toutes sortes de choses, alors on peut véritablement se poser la question comme Pierre l'a posée, mais il la pose pour nous, Pierre. Et c'est bien d'un côté, mais Seigneur, combien de fois vais-je pardonner à mon prochain, à mon frère, lorsqu'il péchera contre moi, sera-ce jusqu'à 7 fois ? Parce que les Juifs avaient l'habitude, dans la loi de Moïse, de déclarer qu'au bout de 3 fois, c'était bon, hein, ça suffisait. Alors Jésus, là, va aller beaucoup plus loin, parce que Pierre, il va en prendre pour ses oreilles, hein, parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Est-ce que ça sera jusqu'à 7 fois ? Et Jésus va lui dire, mais écoute, hein, en quelque sorte, il faut que toi qui crois en moi, se parler l'un à l'autre, hein, eh bien il faut bien que tu comprennes que le pardon dans le cœur d'un homme doit être total, autrement rien n'est fini. Rien n'est fini, au contraire. Tout recommence et le mal est entretenu. Et au lieu de monter, il descend en spirale et l'on descend dans l'enfer. C'est la haine. Je dis que la réponse que Jésus va donner à Pierre étonne. Et j'irai plus loin, elle étonnera tous les blessés du monde, tous les gens qui ont été offensés, la réponse de Jésus. Et s'il la donne, c'est que, à mon sens, c'est la vérité. Et nous avons besoin de l'entendre pour être guéris. On a tous été blessés d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre de notre vie. On a tous été piétinés, humiliés. C'est comme ça. Quelquefois, on se demande pourquoi. Quelquefois, on a peut-être fait des erreurs, on a provoqué certaines choses. Bon. Mais dans certains cas, comment expliquer pourquoi cet acharnement ? Alors, nous avons le verset 22, où Jésus va lui répondre, mais ce n'est pas ce que tu penses. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de fin à tout cela dans le domaine du pardon. Jésus montre à ce moment-là, pour chacun d'entre nous, que le pardon, excusez-moi du peu, n'est pas une grâce de notre part. Ce n'est pas tout simplement de dire, eh bien voilà, quelqu'un vous a offensé, il vient vous demander pardon. D'abord, il faut que le coupable vienne demander pardon. Autrement, on ne peut pas pardonner à quelqu'un qui ne demande pas pardon, c'est très difficile. Le processus doit être comme cela nous est dit au verset 15, vous le relirez dans votre chez vous. Mais nous voyons que Jésus va nous dire que ce n'est pas une grâce de notre part. C'est même à la limite, et plus, c'est même une obligation, parce que la seule réaction qui soit en accord avec le pardon dont nous sommes nous-mêmes bénéficiaires, eh bien ne peut que finalement fonctionner si nous nous souvenons de ce que Jésus nous a dit dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 6 et verset 14, il est dit ceci. Et vous remarquerez, c'est bien en accord avec la prière, pour l'exaucement de la prière, puisqu'il s'agit du Notre Père. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. C'est sérieux. C'est difficile à entendre. Seigneur, tu me laisses dans une situation où je suis là, confondu, je ne sais pas quoi faire. Mais vous savez, celui qui nous demande de pardonner, il va nous aider à pardonner. On n'y arrivera pas tout seul et je vais vous l'expliquer. C'est très difficile. On peut gravir des montagnes, on peut traverser les océans, mais franchir l'immensité de ce que Dieu nous demande, là, nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu, parce que ce n'est pas physique, ce n'est pas matériel, c'est moral. Et je dirais que c'est encore beaucoup plus au-dessus, c'est spirituel. C'est spirituel. Et il nous est demandé de réfléchir à ce que nous sommes. Et il parle particulièrement à des chrétiens. Alors si nous nous déclarons chrétiens, nous devons bien écouter ce que Jésus a nous dit. C'est-à-dire qu'il nous renvoie à notre propre salut. Comment sommes-nous devenus chrétiens ? Qu'est-ce qui a fait que véritablement, eh bien, notre vie a été transformée, changée, nous sommes passés par la repentance, que nous avons suivi Jésus, et que nous l'avons connu, et que nous le connaissons comme Sauveur et Seigneur de notre vie, et que notre vie a été changée. Donc, il y a là une transformation intérieure. C'est en nous souvenant que Dieu nous a pardonnés. Ça, tout l'Évangile repose sur ce fondement du pardon. La croix, qu'est-ce que c'est ? C'est la proclamation universelle que Dieu, dans la personne de Jésus-Christ, pardonne aux hommes. D'ailleurs, la première parole des 7 paroles de la croix, c'est Jésus qui le demande à son Père céleste, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. » Alors ça nous renvoie finalement à ce que nous sommes, et nous sommes surtout devenus. J'ai été pardonné, alors je dois forcément pardonner. D'ailleurs Jésus le dit, après avoir cet entretenu sur l'enseignement du Notre Père, « Mais si vous pardonnez aux hommes, votre Père vous pardonnera, mais si vous ne pardonnez pas, il y a un problème. » Alors, je parle de la haine, je parle de cette animosité, je dirais même plus de cette inimitié pour mon prochain. Vous savez ce que c'est ? L'inimitié, ça touche finalement un monde qui est un monde éminemment spirituel, mais un monde profondément mauvais, malin, diabolique. Alors, nous avons lu après cette petite introduction que nous laisse Pierre et puis la réponse de Jésus, la parabole qui suit. Et cette parabole n'a pas son pareil pour nous porter à la réflexion sur ce qu'est le véritable pardon selon Dieu. Il y a une conception de pardon selon les hommes. Souvent, c'est ceci. Tu sais, je te pardonne, mais j'oublie pas. À une prochaine occasion. Bon, je veux dire que c'est quand même exagéré et c'est un petit peu pointu. Mais quelquefois, c'est ça. Voilà. Mais Dieu a une conception à nous apprendre et il nous le montre en trois leçons particulières que nous allons passer rapidement. La première leçon, c'est la grandeur du pardon. Écoutez bien, la grandeur du pardon. Où, dans le texte de la parabole, et nous lirons tout à l'heure, notre dette de créature serviteur, parce qu'il est question de serviteur et de maître, de roi et de serviteur. Notre dette de créature serviteur, où il est donné sa proportion astronomique d'une dette impossible à régler par nos propres moyens. Et ce n'est qu'une illusion si nous disons, comme le serviteur en question, « Mais je te paierai tout, hein ?» Je te paierai tout. Ça, c'est illusoire. Et parce que ça enveloppe, bien sûr, une petite histoire qui s'est passée entre un roi et ses ministres ou ses serviteurs qui devaient de l'argent, mais ça nous montre aussi qu'il y a une autre dimension de vue, une autre conception, qui est notre salut. Et aucun homme, aucun homme vivant sur cette terre ne peut payer la dette de son péché, de ses forfaits. Alors vous me direz, mais il y a quand même une différence entre un Hitler qui a massacré et d'autres. Et puis, bon, moi, je n'ai pas fait grand-chose. Alors là, on ne rentre pas dans cette considération, parce que tous les hommes, nous dit la parole de Dieu, sont pécheurs. Alors on ne va pas rentrer dans ces considérations. Bien sûr, il peut toujours y avoir... dans notre façon de calculer, de mesurer les différences. Mais là, on va la voir, la différence. Parce que le serviteur en question, lui, doit... Ce qu'il doit au roi, c'est astronomique. Et il s'imagine que finalement, il va y arriver. Et nous nous apercevons que la réponse qui va être donnée à ce serviteur qui va être absous, qui va être relâché, relaxé, comme on dit en termes juridiques, que la justice du roi est basée non sur la légalité, mais... sur la miséricorde. Alors on va le voir tout de suite. Le verset 23-27, il nous est dit ceci. C'est pourquoi, Jésus, le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs, ce qui est tout à fait normal. Quand il se mit à compter, on lui amenait un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme et ses enfants. C'était un peu les méthodes à l'époque. C'est terrible. Il faut quand même le reconnaître. Et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et lui dit « Mais Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Voilà. Donc, dans ce petit paragraphe, nous avons ce que je viens de dire il y a un instant. L'énormité, une dette inimaginable pour un particulier à rembourser. Remarquez, aujourd'hui, on est au niveau des particuliers, mais au niveau des États, on passe les pieds par le plancher. Et même les pays les plus riches. Alors bon, peu importe, mais c'est pour donner un petit peu un relief à notre réflexion, pour nous montrer que ça existe et ça existe bien. Et nous voyons que cet homme dit, mais oh, moi je ne veux pas que tu vendes ma femme, je ne veux pas que tu vendes mes enfants, je ne veux pas que tu vendes tous mes biens, et il n'y en aurait même pas eu assez. D'ailleurs, ce n'était pas ses biens, c'était qu'il s'était enrichi malhonnêtement avec les richesses du roi. Alors c'était une double faute, une double erreur. Alors, il dit, mais moi, je vais y arriver à un moment donné. Et voilà la justice du roi. C'est une justice qui ne se fonde pas sur la loi. Parce que si ça se fondait sur la loi pour nous, eh bien, il n'y aurait personne qui serait sauvé. ça repose sur la miséricorde que l'on appelle communément la grâce de Dieu. Dieu nous a fait grâce. Dieu vous a fait grâce. Dieu te fait grâce. Ce n'est pas la loi. Ce n'est pas la légalité, parce que là, personne ne s'en sort. Personne ne peut s'en tirer à ce titre-là. Ce n'est pas possible, mais c'est la grâce, uniquement. Alors, considérant la grâce infinie de Dieu, l'apôtre Paul nous le rappelle dans une écriture qu'il laisse aux Éphésiens, à ses amis, ses chrétiens d'Éphèse. Il leur dira ceci en préambule de cette formidable lettre que l'on appelle la lettre de Paul aux Éphésiens. Il dira ceci, « En Jésus, je lis, hein, nous avons la rédemption, nous avons été rachetés, vous vous rendez compte ? Il y a une notion de rachat, c'est nous qui devons et en plus il nous a rachetés. C'est lui qui a payé le prix, par son sang, par la croix. Le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence et en plus il nous a fait connaître le mystère qui nous sauve aujourd'hui. » Pour savoir que ce n'est pas nous, mais c'est lui. C'est lui qui sauve les hommes. La deuxième leçon qui apparaît dans notre texte, c'est l'aberration. On ne peut pas dire autrement. C'est la folie. L'aberration d'un esprit sans pitié qui veut une vengeance et une revanche à tout prix. Ça, c'est terrible. Et cet homme, ce premier serviteur, qui a obtenu la faveur du roi, qui a été relaxé, où le roi lui a dit « Tu ne me dois plus rien, je tire un trait sur l'ardoise, tu es libre maintenant. » Eh bien, c'est ce même serviteur auquel on a fait grâce qui lui va être dans un état d'esprit et dans une mentalité impitoyable. Et ça, c'est dramatique. Des gens à qui on a fait vraiment, on a donné la faveur, et qui deviennent à ce moment-là, et bien encore pire avec les autres. Même si nous sommes totalement dans nos droits, est-ce que ce sont nos souffrances qui vont nous guérir ? Et cet homme auquel on a fait grâce, il a certainement peut-être quelque chose à récriminer, naturellement. Enfin, celui qui a été le plus lésé, c'est le roi, hein, quoi qu'il en soit. Mais est-ce que parce que la souffrance nous étreint, est-ce que parce que nous avons encore des blessures, des meurtrissures, que ça doit nous donner et ça doit nous rendre durs avec les autres? Et cet homme qui avait reçu la grâce de Dieu, qui avait été pardonné complètement, eh bien va devenir impitoyable. Et c'est ce que nous dit la suite. Après qu'il fut sorti, donc, du palais du roi et libéré, acquitté, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie pitié envers moi et je te paierai ». Mais l'autre ne voulut pas, il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Vous avez bien compris. C'est simple à saisir. Jésus nous a laissé une image tellement accessible pour tout le monde. Le premier doit une somme astronomique. Impossible à rembourser. Il sort, il voit un de ses compagnons qui lui doit à lui une somme insignifiante. Et la première chose qu'il fait, il l'interpelle, il lui dit « Tu me dois 100 deniers » et à mon côté, il commence à parler, il commence à le prendre au cou, il l'étrangle, il le met par terre et il commence à lui donner des coups. Et au bout d'un certain temps, alors que l'homme est tout ensanglanté et pantelant, hop, il l'envoie en prison. Comment vous réagissez ? On se dit, c'est une injustice, c'est pas possible qu'il n'ait pas compris cela. Eh oui, c'est pas possible. Et ça, ça nous renvoie aussi au pardon que nous avons reçu. Nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas nous payer le luxe, excusez-moi hein, ce que je dis, hein, mais d'être méchants avec les autres, d'être juge des autres, de les condamner, puisque de toute façon, la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 8, verset 1er, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors mon frère qui est en Jésus-Christ, qui peut-être ne pense pas comme moi, qui ceci et cela, et heureusement qu'il y a des différences. Alors à ce moment-là, je le regarde et de toute ma hauteur en disant, bien voilà, hein, tu es moins que rien, et puis moi je vais faire ton affaire. Et ça, ce n'est pas permis. Parce que c'est oublié que nous aussi, nous avons été pardonnés. Et parce que nous avons été pardonnés, eh bien nous avons le devoir de pardonner. Écoutez, si quelqu'un, je le rappelle, si quelqu'un devait être sacrement offensé, c'était le roi, il devait 10 000 talents. L'autre, le pauvre, ça fait 70 centimes de nos francs. Enfin, de nos francs, je suis encore en arrière. Hein. Vous te convertissez en euros, vous verrez ce que ça donne. Mais toujours est-il, c'est rien du tout, mais c'est une somme insignifiante. Et il le prend, il le... Bref, il veut le pulvériser, il le jette en prison. Ouais. Il y a devant nous, et Jésus fait le contraste d'une manière très flagrante, il y a devant nous tout simplement l'énormité de la dette et l'insignifiance de la dette. Alors si nous avons reçu le pardon de nos péchés, si nous croyons que nous sommes pardonnés, eh bien à ce moment-là, il faut être beaucoup plus mesuré, beaucoup plus avenant, miséricordieux avec d'autres. Parce que nous avons été pardonnés, c'est la première chose. Alors il y a des facteurs, comme nous l'avons dit, hein, dans toutes les souffrances que nous avons vues, les causes et les raisons de ce qui peut parfois nous amener à ne pas vouloir pardonner. Alors là, nous avons besoin d'une délivrance au niveau de notre cœur, et il y a Dieu qui peut le faire. C'est vrai que quand on a souffert beaucoup, quand on a eu à connaître des nuits, des jours de cauchemar, ça nous reste, hein, c'est quelque chose de terrible. Mais moi je dis, et je répète encore ce soir, c'est que Dieu est celui qui peut tout. Ça nous semble impossible, nous, peut-être. Et combien de fois j'ai été à m'entretenir avec des hommes, des femmes, des chrétiens, venant me raconter quelquefois des histoires épouvantables, hein, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont subi, toutes sortes de violences et de violations, et de pouvoir dire, mais moi, c'est impossible. Je me souviens d'une femme, il y a quelques années, elle avait une soixantaine d'années, qui avait gardé un drame de jeune fille, hein. Ouais, toute sa vie, pendant 40 ans, 40-45 ans. Et c'était la première fois qu'elle en parlait à quelqu'un. Et cette femme, elle n'arrivait pas à surmonter, elle n'arrivait pas à passer le cap, parce que c'était dans sa chair. Et elle a pu en parler, elle a pu déjà d'en parler, de confesser, de le dire, alors qu'elle était victime, hein. C'était pas, elle n'était pas en cause. Mais vous avez remarqué, dans certaines formes de mal subi, ce ne sont pas les coupables qui se sentent coupables, ce sont les victimes qui se sentent coupables. Il faut réparation, il faut guérison, il faut que psychologiquement, moralement, spirituellement, naturellement, eh bien, qu'il y ait le doigt de Dieu, parce qu'autrement, ce n'est pas possible. Et cette femme a pu parler, et elle a pu prier, se préparer, finalement, accepter. Je crois que c'était plus possible, parce que la personne en question devait être morte, hein, puisque c'était une jeune fille. À l'époque, et puis voilà, hein, elle était. Donc, il n'y avait pas rien à faire quand les personnes ont disparu. Mais de pouvoir dire dans mon cœur, eh bien, maintenant, Seigneur, j'ai entendu ta parole, je sais ce que tu me demandes, eh bien, moi, j'accepte. J'accepte de pardonner. Je ne peux pas le faire parce que ça n'existe plus de pouvoir le faire, mais en tous les cas, dans son cœur et moralement, c'est une délivrance. Et je crois que ça doit nous amener, nous aussi, eh bien, avoir la même attitude, finalement, eh bien, de miséricorde. Et pensons à ce que Dieu a fait. Oui, pensons à ce que Dieu a fait. Et c'est encore l'apôtre Paul qui vient enrichir notre réflexion. Et vous savez ce qu'il dit, Paul, à un moment donné ? Soyez bons les uns envers les autres. Mais Seigneur, comment veux-tu que je sois bon avec des gens qui ont été mauvais ? Comment veux-tu que je sois bon avec des gens qui ont été méchants avec moi ? Alors, soyez bons envers les uns et les autres. Compatissant. La compassion, c'est souffrir avec. Vous pardonnant réciproquement. Écoutez la suite. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alors nous croyons, oui ou non, au pardon de Jésus dans notre vie. Et là, on remonte à ce moment-là. On va reprendre les choses dans le bon sens. Je crois que Jésus m'a pardonné, que Dieu m'a pardonné en Jésus-Christ. Seigneur, crée en moi des sentiments de compassion. Parce que vous savez, celui qui est coupable, il n'est pas heureux non plus. Hein. Il peut toujours fanfaronner, il peut toujours dire, eh bien, je l'ai. Mais je pense que le tourment est perpétuel en fonction de la gravité, naturellement, des fautes et des erreurs. Et celui qui a été victime n'est pas bien non plus. Alors il faut qu'il y ait naturellement. Et ça fait partie de la guérison divine. Elle n'est pas physique, ce n'est pas le boiteux qui se met à marcher l'aveugle à voir. Non, c'est une guérison de l'âme, une guérison du cœur, du cœur, la guérison à l'intérieur de nous-mêmes, la guérison dans nos pensées, qui fait, et qu'il faut répéter encore ce soir, que pardonner, ce n'est pas être dans l'amnésie du souvenir, parce que Dieu ne va pas nous enlever une partie du cerveau pour que nous n'y pensions plus, c'est finalement pouvoir encore se souvenir du mal qui a été fait, mais on n'en souffre plus parce que Dieu a retiré l'aiguillon. Ça, c'est la victoire de Dieu. C'est la victoire de Dieu. La troisième leçon, c'est notre attitude face à une injustice flagrante. Et nous sommes parfois confrontés avec des injustices flagrantes. Il y a des choses que j'entends et que je vois dans le monde qui me choquent et qui sont aberrantes et qui viennent peut-être de ces hommes de pouvoir ou qui viennent de ces hommes qui ont une autorité ou qui viennent d'où que ça vienne, peu importe. Et c'est flagrant, tout le monde le sait. Et on se dit, mais comment ? Alors c'est le verset 31 qui nous renseigne. Le 31 et un peu plus loin, il nous est dit à ce moment-là, « Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir aussi pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Oui. Quand le mauvais serviteur, le serviteur impitoyable, a rencontré son ami, enfin celui qui devait une somme insignifiante, et qu'il l'a mis par terre et qu'il l'a jeté en prison, il y avait des témoins. Dieu merci qu'il y ait encore des témoins. Et ces témoins donc, que l'on appelle ses compagnons, ils ont vu ce qui était arrivé. Et vous savez ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été profondément attristés. Ils se sont dit, c'est pas possible. On ne peut pas laisser une chose comme ça, c'est pas possible. Et ils allaient raconter à leur maître, c'est-à-dire leur roi, tout ce qui s'était passé. Alors le maître, lui qui venait de faire grâce, le premier était à peine descendu des marches du palais, qui commençait à faire ce qu'il a fait. Alors le maître a fait appeler ce serviteur et lui a dit, mais méchant serviteur, vous remarquerez, le mot est à dessein, méchant. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est la méchanceté. La méchanceté, c'est une des choses terribles, avec la jalousie, mais ça va ensemble. Terrible. La méchanceté, il devait peut-être y avoir une part de jalousie dans tout ça. Mais être jaloux de quelqu'un qui, finalement, n'avait pas d'argent, c'est complètement aberrant, mais c'est pour dire que le mal, il est capable de dénaturer la raison et la conscience. Alors, méchant serviteur, je t'avais remis en entier, il lui rappelle, mais moi je t'ai fait grâce, parce que tu m'en avais supplié, ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai pitié de toi? Et même en disant ces paroles, vous croyez que ça va le faire fondre? En disant, oui, j'ai fait une erreur. Mais pas du tout. Il y a de l'entêtement chez ce serviteur impitoyable qui croit toujours avoir raison jusqu'au bout. C'est des gens qui n'ont rien à faire. Hein. C'est du granit. C'est du marbre. Et c'est terrible. Et je dirais que si c'est du marbre et du granit, c'est qu'il y a derrière un aveuglement, un endurcissement qui n'est pas seulement humain. Je ne veux pas avoir le diable partout, mais lui, c'est un artiste. Il est passé maître dans l'art, finalement, de perdre les hommes en les mettant dans une position où il n'y a pas de marche arrière, il n'y a pas de recul. La réaction normale devant l'iniquité épouvantable, c'est d'être attristé. Ouais. Ils ont été attristés, les spectateurs. Et nous sommes choqués, quelquefois, de certaines images ou de certains commentaires qui nous arrivent. On se dit, mais comment est-ce possible? J'aurais jamais pu penser à cela. Âme sensible, attention, parce que le monde est dangereux. Hein. Ça, c'est vrai. Mais tout en étant attristés, vous savez ce qu'ils ont fait, ces compagnons? Ils ne sont pas allés raconter la chose dans toute la ville. Ils sont allés le dire au maître. Ils sont allés le dire au roi. Et je crois que quand on est confronté avec ces choses, ce n'est pas de répandre ce mal, cette méchanceté devant les hommes. Parce que non seulement on va les souiller, on va se souiller nous-mêmes, et il ne faut jamais aller vers les hommes pour en méditer des représailles ou calomnier. Parce que nous allons nous faire des complices à ce moment-là, mais il faut aller vers le roi. Vous savez, la meilleure des solutions, et je crois que c'est une bonne leçon pour les chrétiens, au lieu de parler à tort et à travers, quelquefois même sans preuve, nous ferions d'abord mieux d'en parler à Dieu. Et il y a bien des choses qui seraient solutionnées, parce que nous, quand on y met la main, on ne simplifie pas, on complique. Il a fait, il a dit, et ceci, et cela, et j'ai entendu, et j'ai vu, etc., etc. Mais il faut en parler au Seigneur. Parce que s'il y a quelqu'un qui est juge, et quelqu'un qui est juste, c'est Dieu. Mais moi, qui suis-je? Même si j'ai une place, même si j'ai une autorité, même si je suis habilité à ceci et cela, mais on en parle au roi. On en parle au maître, et c'est lui qui va faire les choses. Parce qu'à partir du moment où je commence à le répondre à l'horizontale, mais je vais enliser la situation, je vais m'embourber dans la situation, et je vais embourber d'autres, hein, ça c'est clair. Et Le résultat, c'est que nous allons, par ce fait même, au lieu d'en parler à Dieu, en parler aux hommes, nous allons amplifier le mal, et je crois que Dieu peut tout entendre. Parce que lui, il connaît les tenants et les aboutissants, il sait pourquoi ceci, cela, il connaît l'avant, l'arrière, il connaît tout, sous toutes les formes. Il connaît les raisons, peut-être, du coupable, même si ce n'est pas des bonnes raisons. Il connaît aussi les cris et la souffrance de celui qui en est victime. Alors, il faut plutôt en parler à Dieu, car la rétribution, c'est le mot qui est employé dans la Bible, la rétribution, c'est l'affaire de Dieu, ce n'est pas la mienne. Quelquefois, quand la colère nous monte, enfin, la moutarde, on dit, la colère, on a quelquefois envie de remonter nos manches et de dire « je vais lui régler son compte ». Il va entendre ces quatre vérités. Pourquoi on dit quatre vérités? Vous me direz, hein. Il n'y en a pas qu'une. Il n'y en a qu'une, normalement, une vérité, il n'y en a pas quatre. Hein. Alors, et là, je crois qu'on fait plus de mal que de bien, parce que le problème qui appartient à Dieu, c'est tout simplement, eh bien, c'est son problème à lui, ce n'est pas le nôtre, hein. Parce que Dieu sait faire. Et quand il s'agit de donner des solutions à des problèmes complexes, à des situations épineuses où on ne peut vraiment pas y mettre les mains, il va vous laisser faire parce que lui sait. Il saura donner une fin juste, une fin, une bonne fin à tout conflit ou toute dispute. Parce que à Dieu appartient la justice juste, la vraie justice. C'est tout le sens et le but de notre foi. La seule chose que nous ayons à faire, c'est de mettre notre confiance et notre foi en Dieu. Et c'est comme ça qu'il va agir. C'est comme ça qu'il va agir. Dieu nous demande tout simplement de nous abandonner entre ses mains, de lui faire confiance. Seigneur, est-ce que tu es capable de régler le problème? Quelquefois, on lui pose la question. Tu sais, hein, moi je connais bien l'affaire, hein, je la vis. Dieu va nous répondre. Tu la connais bien? Ben, tu sais pas tout. Hein. Alors tu ferais mieux de rester tranquille, et puis moi, c'est moi qui vais arranger la chose. Ouais. Je termine, ça sera la conclusion. Et son maître, irrité, le livra au bureau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Pas la tête. Ouais, Seigneur, je veux bien mentalement, psychologiquement, avec mon raisonnement, mes déductions, mes calculs, je veux bien pardonner. Et vous avez vu, c'est pas comme ça que c'est dit. Hein. Il est dit de tout son cœur. Et comme le cœur est l'organe directeur et qui oriente toute la vie des hommes dans un sens ou dans un autre, dans le bien ou dans le mal, dans la vérité ou dans l'erreur, alors, les choses sont dites. L'avertissement est des plus sérieux. Parce que cela a des conséquences. Et combien d'hommes et de femmes souffrent? Souffrent de toutes sortes de maux connexes, des mots qui sont la conséquence d'un refus de pardonner ou d'un ressentiment au fond du cœur où là, eh bien, il y a une détérioration peut-être de leur fonction physique, peut-être au niveau de leur vie spirituelle qui n'arrive pas à décoller, de leur vie morale où ils sont toujours là pris dans toutes sortes de choses qui les rendent profondément malades. Alors c'est sérieux. Seigneur, est-ce qu'il n'y aurait pas une guérison intérieure dont j'aurais besoin pour accéder à une liberté, à une autre dimension de ma vie? Parce que, pardonnez, c'est vivre enfin sans ressentiment, sans amertume et sans aigreur. Alors l'aiguillon, c'est Dieu qui va l'enlever. C'est pas nous. Et c'est pas un conditionnement en disant je dois pardonner, je dois pardonner, je dois pardonner, et vous le répétez 1000 fois ou 2000 fois par jour, ça ne changera rien. Il va y avoir une purification dans notre cœur. Et vous savez, quand on est passé par cette délivrance du ressentiment, on y est tous passés les uns et les autres. Et quelquefois, à tort ou à raison, on y est tous passés à avoir un ressentiment, une haine contre quelqu'un parce qu'il nous a fait du mal. Eh bien, le jour où, véritablement, on a déchargé notre problème devant Dieu, qu'est-ce que c'est beau et qu'est-ce que c'est bien de se savoir pardonner? C'est comme s'il y avait un fardeau écrasant qui tombe de nos épaules. Ouais, on a tous passé par là. Ne serait-ce que quand on était petit garçon ou petite fille, qu'on avait fait une bêtise et puis qu'on savait très bien que les parents le savaient, parce que bon, ils ont quand même un petit peu d'avance sur nous, parce que ce que nous sommes, ils l'ont été, et puis bon, voilà. Et à partir du moment où quelquefois on est en train de biaiser, de mentir pour ne pas dire la vérité, et au moment où ça craque parce qu'on est dévoilé, on dit oui, c'est moi, je l'ai fait, voilà. Au lieu d'accuser le frère et la sœur, eh bien on le dit. Et là, à ce moment-là, on sent qu'il y a. Alors il y a peut-être quelque chose qui va arriver, une punition, mais on est quand même délivré de ne plus être tourmenté. Pardonner, c'est la liberté d'être. Parce que tant qu'on ne pardonne pas, on n'est pas. Ouais. On est dans une condition qui n'est pas bonne. C'est la liberté d'être et c'est un véritable soulagement d'être soi-même. Pardonner, c'est celui qui ne sait pas pardonner. Eh bien, celui qui ne sait pas pardonner ne connaît pas la joie d'être pardonné. C'est qu'il n'a jamais pris la mesure ce que ça pouvait être le bonheur d'être pardonné par Dieu. Alors, comme il ne sait pas, eh bien, il ne peut pas l'appliquer aux autres, naturellement. Il vit dans l'ignorance de cette vérité que Dieu pardonne et que nous devons pardonner. Et il y a, pour terminer, cette parole de Jacques, chapitre 2 de son écriture, de son livre, il dit, écoutez, « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. » Moi, j'aime bien, hein, ça paraît un petit peu, finalement, opposé, une loi et la liberté. Parce que la loi n'est pas la liberté. Hein. C'est le cadrage et on est mesuré. Mais là, il est question d'une loi de liberté, d'affranchissement. Car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Et je crois que nous sommes au cœur même de la puissance de l'Évangile. C'est que finalement, eh bien, la condamnation est enlevée, le jugement disparaît, parce que la grâce est supérieure. On n'est plus dans l'Ancien Testament, on est dans le Nouveau Testament. Et ça, c'est merveilleux. Autrement, si les choses sont comprises de notre côté, c'est que nous ne croyons pas que Jésus vraiment a donné sa vie pour chacun d'entre nous et pour tous les hommes, pour leur faire grâce. Alors, laissons l'œuvre du Saint-Esprit. Vous avez entendu la parole. Cette parole, elle passe dans nos cœurs ce soir. Elle va faire son chemin. Et peut-être que quelqu'un est venu parce qu'il est tourmenté par un obstacle qu'il bute. C'est le problème d'avoir la difficulté de pardonner. Bien, je le répète. Laissez et demandons à Dieu qu'il fasse son œuvre par l'Esprit Saint, par son Saint-Esprit. Sa parole est venue enlever le brouillard, notre ignorance, l'opacité dans laquelle nous sommes renfermés bien souvent devant nos problèmes, au fond de notre cœur, nos jardins secrets, le reste. Laissons le Saint-Esprit opérer dans nos cœurs blessés, car Dieu guérit les cœurs brisés. Ça fait partie de l'Évangile que Jésus a annoncé à Nazareth, hein, par son amour, parce que Dieu est le Dieu qui fait grâce, même aux coupables. Et qui d'entre nous peut dire « Je ne suis pas coupable » à différents degrés, mais on est tous coupables. On est tous coupables de quelque chose. Alors que Dieu nous aide. Parce que je pense que ça, c'est un message qui a sa raison d'être. Parce qu'à partir de ce message, à partir de cet enseignement de Jésus, c'est une clé qui ouvre toutes les portes pour notre délivrance, notre bien-être, notre guérison physique, notre guérison morale, psychologique, et notre bien et notre épanouissement spirituel. Ça commence par là. Seigneur, viens m'aider. Et Dieu guérit les souffrances. Dieu bénit il apaise les blessures. Oui. Mais il faut passer par la guérison de notre cœur. Alors que Dieu nous aide. Alors, je pose la question, mais jusqu'à quand vais-je pardonner? Vous avez la réponse. Je crois qu'elle est très claire, cette réponse. Est-ce que ce sera jusqu'à 3 fois, jusqu'à 7 fois? Le Seigneur nous dit, viens vers moi. Tu portes un fardeau qui te détruit. Viens, je vais te soigner. Je vais te traiter. Je vais te donner la vraie notion, la saine notion pour être bien un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille qui sait pardonner et après tu auras la liberté que tu pourras vivre. Tu seras tout simplement. Que Dieu nous bénisse. On va prier maintenant et dans la réflexion, en cette prière, eh bien que chacun, dans le silence, puisse dire ce qu'il a envie de dire au Seigneur. Oui Seigneur, je viens devant toi. Alors, apprends-moi à pardonner. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier, Seigneur, parce que nous croyons qu'il n'y a pas d'autre enseignement plus important, en effet, que le pardon. Oui, Seigneur, nous savons que lorsque tu as vu le monde se désagréger, se corrompre, tomber dans l'abîme du mal et entre les mains du malin, eh bien, Seigneur, il n'y avait qu'une une réponse. Et tu n'as pas hésité à prendre cette réponse. C'est que tu avais déjà conçu un plan de secours, un plan, Seigneur, pour sauver les hommes, d'abord de l'adversaire et de leur propre misère. Et nous voulons te rendre grâce parce que le monde aurait pu être condamné irrémédiablement. Propulsé, Seigneur, tout simplement, il y a là dans la géhenne. Mais Seigneur, toi, tu as choisi l'autre voie. C'est pas celle de la condamnation, c'est pas celle du jugement. C'est de dire tout simplement que tous ceux qui le veulent, tous ceux qui le croient, eh bien, peuvent accepter, maintenant, sans problème, sans difficulté, eh bien, tout simplement, de recevoir la grâce. Et quand j'ai reçu la grâce, quand j'ai reçu le pardon, eh bien, je ne dois jamais oublier que dans tous les accidents de la vie auxquels je peux être confronté, les querelles, les jalousies, les divisions, la méchanceté des hommes, eh bien, je dois aussi bien comprendre que moi, si j'étais pardonné, je dois pardonner aux autres. Et nous te remercions et nous te bénissons parce que lorsque je pardonne à quelqu'un qui me demande pardon, eh bien, non seulement je me libère moi-même, mais je ne renferme pas l'autre dans une prison, Seigneur, de jugement et de condamnation. Parce qu'en effet, s'il demande pardon, s'il a besoin d'être pardonné, je dois lui donner le pardon. Et cela, ça se fera deux hommes heureux, deux hommes libérés, deux hommes qui vivront, eh bien, de la grâce de Dieu. Et nous t'en bénissons et nous te remercions. Bénis-nous, Seigneur, ce soir. Et tu entends nos prières à chacun. Merci mon Dieu, merci Jésus. Amen. Amen.